Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Emmanuel Macron était devant le congrès de l'Association des maires de France aujourd'hui, à 4 mois des élections municipales qui ne sont pas les plus faciles pour La République En Marche. Le ton était plus conciliant que les années précédentes, marqué par une certaine incompréhension entre la présidence et les élus locaux. Conciliant, c'est un mot qui va bien ces jours-ci à l'attitude de l'Élysée. On sent que la perspective de la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites incite à la conciliation. L'exécutif répète à l'envi qu'il n'y aura pas de texte avant plusieurs mois. Il tente manifestement d'éviter un incendie social. Emmanuel Macron est-il en marche arrière? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Henri Vernet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France et vous êtes en charge des questions politiques et de politique internationale. Et Olivier Roucan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et constitutionnaliste. Depuis 2017, on a connu un Emmanuel Macron conquérant, jupitérien, cassant parfois, et depuis la rentrée, cela semble avoir changé avec davantage d'écoute, de prudence. Le ton a changé, vous êtes d'accord sur le constat, Henri Vernet ?
Ah oui, le ton indéniablement, vous l'avez fait remarquer, avec les maires, cela a beaucoup changé, d'autant plus qu'il n'y était carrément pas allé l'année dernière, à la fois par défiance entre ces deux univers, pourrait-on dire, entre un président, rappelez-vous, à l'époque, il est encore appelé comme le président des villes, l'homme qui, de par sa culture, de par sa formation, n'était pas issu d'abord de mandats locaux, et encore moins de mandats locaux ruraux, comme bien de ses prédécesseurs. On sait l'amour des Français et des présidents français pour les terroirs, je veux dire, de Mitterrand qui a toujours vanté cette France des territoires, Chirac, le Corrézien comme il se présentait, même s'il ne l'était en réalité plus depuis longtemps, il était un Parisien. Mais bref, il n'était pas, le président Macron, dans cette tradition du président qui a longtemps marné dans les territoires avec un mandat local. Et donc, il était incompris de ses maires. Pire que ça, il le voyait comme les maires, les élus locaux le voyaient comme quelqu'un qui était loin de leurs préoccupations, qui ne les comprenait pas, voire qui les méprisait. Entre-temps, en effet, il y a la crise des Gilets jaunes. Le président Macron, il a parfaitement compris que les maires, les élus locaux, de manière générale, mais singulièrement les maires, ils sont en quelque sorte aux premières loges. D'abord, ce sont les élus préférés des Français, ça on le sait, même si eux aussi sont bousculés, et dans tous les sens du terme, au propre comme au figuré. Mais il a compris que ce sont des vigies, les maires. Ce sont les premiers à se colter les problèmes quotidiens des Français. Et aujourd'hui, justement, pour cela, il veut s'appuyer sur eux.
Olivier Roucan, est-ce que Emmanuel Macron est rattrapé ou se raccroche plutôt aux institutions, lui qui a conquis le pouvoir en mode commando?
De fait, il a conquis le pouvoir. Alors en mode commando, c'est de la communication, parce qu'il était au cœur du pouvoir depuis plusieurs années. Sa culture, son éducation et surtout sa formation l'ont placé assez tôt, finalement, au cœur des questions de pouvoir. Donc, si vous voulez, il y a eu la communication, puis il y a la réalité. Dès les premières heures de son entrée en pouvoir, il a d'ailleurs largement indiqué qu'il était familier de ces lieux de pouvoir, la mise en scène au Louvre, le rite d'institution lorsqu'il devient chef d'État. Donc la question, c'est pas, si vous voulez, être dans les institutions, la question, c'est le pari qu'il fait sur un lien direct avec les maires, parce qu'on sait que le président a un lien direct avec les Français. Donc Emmanuel Macron continue à, j'allais dire, court-circuiter ou traiter de façon un peu légère les régions et les départements. Par contre, et il y a toujours un conflit entre eux, par contre, il s'est rapproché des maires à l'occasion du grand débat. Et à l'évidence, il pense à l'élection municipale dès qu'il entame sa grande tournée, grand débat avec les maires. Et donc c'est aussi pour lui l'occasion de rester le pilote de l'éventuelle implantation de La République En Marche dans les communes lors du prochain scrutin municipal. Et je dois dire qu'à cet égard, pour les institutions, il a aussi le souci de, entre guillemets, contrôler son Premier ministre. Parce que le Premier ministre est très offensif, lui, auprès des élus locaux, aidé par Sébastien Lecornu. Et il a su mettre en place une série de désistements des maires Les Républicains vers La République En Marche. Donc Emmanuel Macron doit essayer de contrôler Français, l'emprise que prend le Premier ministre sur la recomposition du paysage politique.
Oui, Édouard Philippe, lui, Henri Vernet, il a cet ancrage local, cette tradition politique avec... il a été maire et politique avec son ancien parti.
Mais bien sûr, avec son ancien parti, puis avec son mentor. Je veux dire que son mentor, c'est Juppé, c'est Alain Juppé. Donc certes, ancien Premier ministre, on y reviendra d'ailleurs, parce qu'on verra que avoir un mentor pareil dans un décembre peut-être noir qui approche, ça le marque également. Mais juste pour rester sur ce terrain donc d'un Édouard Philippe, disons, en profil politique plus classique, oui, maire du Havre, hein, et on sait que c'est un mandat, il le dit d'ailleurs lui-même, qu'il a extrêmement marqué, qu'il a extrêmement intéressé et vers lequel il n'exclut pas un jour de retourner, y compris peut-être dès la prochaine élection. Tout paraît possible là aujourd'hui. Mais juste par rapport à ce que vous disiez, moi je vois pas un conflit entre l'opération friction entre l'opération séduction d'un Édouard Philippe auprès des maires, et qui en effet pour des maires de droite, donc soit LR, soit divers droites, peu importe, mais et le dessein du président. Au contraire, le Édouard Philippe sert en quelque sorte Emmanuel Macron, qui a besoin de créer cet ancrage. Macron, c'est quoi son problème? C'est que il est à la tête d'un mouvement en réalité qui se résume à lui-même, c'est-à-dire que c'est un avatar. Ça reste pour l'instant un avatar, pas une fiction, mais quelque chose quand même d'encore un petit peu gazeux en marche. On n'a toujours pas bien compris quels en sont les contours, quelle est la teneur, ne serait-ce que idéologique, de ce mouvement-là. Et donc ce mouvement, ce parti, il a besoin de s'ancrer dans les territoires. Et là, quand Édouard Philippe fait ce travail, parce que c'est frappant, je crois qu'on a fait, enfin je suis même sûr, on a fait ce matin dans Le Parisien un article montrant que justement les apparentements qui se font pour les prochaines municipales, donc de gens qui vont avoir soit l'étiquette à l'REM, soit le soutien à l'REM, sont beaucoup plus des maires issus de la droite que de la gauche. Hein. Mmh. Bon, eh bien ça, il en a totalement besoin.
Si vous voulez, vous confortez plutôt ce que je disais, parce que si le Premier ministre est à ce point offensif et efficace dans son entreprise de subversion de la droite, Emmanuel Macron, lui, du fait de son positionnement au sein de l'État, est plus éloigné de ses réalités, on va dire, d'accord électoral pour les municipales. Et je disais bien, je ne disais pas conflit, voire même friction, mais il a quand même un intérêt fort
à le contrôler.
Comme tout président doit contrôler un Premier ministre. Or là, je dirais que sur cette question, Édouard Philippe a quand même pris beaucoup d'avance.
Pourquoi ce sont des élections aussi importantes pour le mouvement En Marche? Ce sont celles d'une véritable installation dans le paysage politique, au plus près des gens, au plus près du quotidien, Henri Vernet?
Oui, complètement, c'est un vrai test. Hein. C'est pour voir si la Macronie, en quelque sorte, est soluble dans les territoires. C'est pour faire prendre un parti, un mouvement. Mais en plus, là, on est un peu dans les syllogismes, parce que le but de Macron, c'est quand même, une fois le pouvoir conquis, c'est de l'exercer et c'est d'y rester. Hein. Tout président de la 5e, il est là pour faire deux mandats. Et donc, pour cela, vous avez besoin de cette assise territoriale. Vous avez besoin que votre mouvement, que ce sigle... Alors, quand je dis le sigle, d'ailleurs, c'est faux, parce que souvent, les maires, ils vont sans étiquette, hein, quelle que soit leur appartenance partisane.
On met les étiquettes. Une fois qu'ils ont l'investiture, ils la mettent dans la poche, souvent.
Exactement. Hein. Mais on montre surtout pas qu'on relève d'un parti, qu'on relève de Paris, tout se fait sur les territoires. Mais bref, il a besoin de cette emprise, mais y compris d'ailleurs pour des raisons, mais vraiment, j'allais dire, très prosaïques, très concrètes. Hein. Les maires, les élus locaux, ils élisent les sénateurs. Sans le Sénat, avec un Sénat en opposition, vous êtes mal, vous avez du mal à faire avancer vos réformes. C'est évidemment primordial dans les élections qui vont suivre, les régionales et les départementales. Bref, il faut que le macronisme gagne du terrain dans tous les sens.
Olivier Roucan, La République En Marche est en difficulté actuellement, là, à 4 mois des élections municipales dans cette campagne?
Bon, nous l'avons dit, c'est un parti qui est né du fait du prince, en quelque sorte, n'a pas un réseau d'élus. Ce n'est pas un parti d'élus. Ça essaie d'être un parti, alors je dirais pas de militants, parce que le terme est un peu désuet, mais dans tous les cas, un mouvement qui enrôle des citoyens. Et de ce point de vue, la dynamique, très rapidement après l'élection présidentielle, c'est quand même, essoufflée.
Donc, oui, au départ, la adhésion était gratuite et puis là pour faire de vrais militants c'est un petit peu plus compliqué.
C'est plus compliqué et puis de toute façon en situation de pouvoir un mouvement politique ou un parti a du mal à enrôler, hein, ça c'est classique. Bon, donc c'est un parti exsangue en fait et c'est un parti hors sol quelque part, c'est-à-dire où il y a des dirigeants, il y a beaucoup d'élus nationaux mais très peu présents dans les territoires. Là, la configuration va-t-elle vraiment évoluer? Il est difficile de lire. On risque de se retrouver dans une situation où, au soir de l'élection, eh bien, on va pas trop savoir qualifier l'appartenance de certains maires. D'abord parce que cette tradition du maire, on va dire, divers quelque chose. Et ensuite, et particulièrement là, parce qu'il y a des maires qui vont bénéficier d'un soutien implicite de La République En Marche, mais personne ne sait si le soir de l'élection, s'ils passent, ils se revendiqueront maire La République En Marche. Donc ça, c'est quand même une inconnue importante.
Je reviens au changement de ton. Dans une interview au magazine britannique The Economist, il y a quelques jours, le président français disait que le débat sur les 3% de déficit appartient au siècle précédent. À qui parle-t-il avant tout, Henri Vernet ? À l'opinion française, hein, pour la brosser un petit peu dans le sens du poil, ou aux autres Européens, notamment à l'Allemagne, pour lui demander d'investir ?
Ben, je pense justement qu'il parle d'abord à l'Allemagne et d'abord aux partenaires européens. Bien sûr que ça flatte l'opinion française de savoir que quand il faudra lâcher du lest financier, la première revendication des gens, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. Donc, comment dire, alléger un petit peu, faire un peu de relance du keynésianisme sur ce terrain-là, bien sûr que les Français sont intéressés et ils laissent l'oreille, mais cela dit, ça a déjà été beaucoup fait, puisqu'il faut bien comprendre que depuis le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes, 17 milliards d'euros ont été dépensés qui n'étaient absolument pas prévus au départ, et donc le résultat, il est déjà là, donc 17 milliards en plus qu'il faut bien trouver, et ça, sans piétiner les 3%, on n'y arrivera pas. Mais juste un point, il parle d'abord quand même à l'Allemagne et aux partenaires européens, et pour le coup, c'est là que je considère pour ma part qu'il n'y a pas de changement de ton. Au contraire, autant il y en a sur le terrain social en France, il se fait tout doux, il est rattrapé par la réalité comme la plupart de ses prédécesseurs. En revanche, sur ce terrain européen, que ce soit sa sortie sur l'OTAN et plus encore ses 3%, parce que, attendez, je veux dire, elle a dû avoir une attaque, Angela Merkel, en entendant ça.
Elle a répondu rapidement sur l'OTAN, en tout cas.
Oui, non, mais sur les 3%, elle n'en pense pas moins. Et là, on retrouve le volontarisme de Macron, qui était celui du candidat, et sa volonté de bousculer les dogmes. Quand il dit les 3%, ça appartient au siècle dernier, d'abord, formellement, il n'a pas tort, c'est un constat. Et évidemment qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est dans une telle crise qu'elle aurait tort de s'accrocher à des dogmes, en plus dont on a bien compris que ces 3%, vous savez, ils avaient été fabriqués par un économiste sur un coin de table, mais ça correspond à rien de très concret.
Olivier Roucan, le ton a donc changé. Est-ce que le fond a changé, pour rebondir sur ce que disait Henri Vernet ?
Je pense que sur les 3% notamment, mais parlons de la dette publique, hein, les fameux 60% d'ailleurs qui avaient évolué sur l'endettement public. Emmanuel Macron, bon, dit...
La dette publique française, c'est 97% voilà, du PIB actuellement.
Alors que la règle imposée était au départ de 60, elle a un peu évolué, elle devait diminuer, mais finalement, vu le constat qui se fait... Bon, peu importe, ces critères qui ont été décidés au moment du pacte de stabilité, Emmanuel Macron nous dit qu'il faut y réfléchir, il faut revenir dessus. Le message, je pense, s'adresse en effet principalement aux Allemands, de la même manière la question sur l'investissement public. Ceci dit, Emmanuel Macron dit quelque chose qu'aurait pu dire François Hollande ou Nicolas Sarkozy, et qu'ils ont même dit de façon un peu différente. Et s'il le dit aussi fort et de façon aussi choquante, c'est parce qu'il mesure que depuis 2 ans et demi, il se heurte aux mêmes impossibilités que ses prédécesseurs. Or, il a bien conscience que ça a véritablement handicapé, notamment François Hollande, cette question de ne pas réussir à faire passer le point de vue français au niveau européen. Donc là, il crée une sorte d'émoi, de choc, mais ça ne garantit pas que les lignes bougent.
Non, ça ne le garantit pas, mais il ne renonce pas à ce projet. Autant Macron, on a rabattu sur le terrain national et le terrain social. Il a été rattrapé par les crises, par les gilets jaunes, et puis surtout, ils sont tétanisés, et notamment Édouard Philippe, parce que justement, il se souvient de ce qu'a vécu son mentor Alain Juppé à Matignon en 95, le décembre noir. Il est très marqué par cela. Donc, il y a une espèce d'attentisme enfin flagrant de la manière dont se passera le 5 décembre. Autant en revanche sur le terrain européen, non, là on voit que ce président, il reste déterminé, il reste décidé à bousculer les choses et donc les 3% en sont le meilleur exemple en disant mais attendez, cette règle aujourd'hui, l'Europe, on voit les populismes croissent, prospèrent partout dans tous les pays et ils prospèrent sur ce champ de dirigeants qui sont incapables de répondre aux attentes sociales des gens.
Le dire
et
donc, ne suffira il faut pas arrêter. À le faire.
Non, mais le dire et bousculer ses partenaires,
sûr,
si ouais. C'est important. Et regardez les premières sorties verbales de Christine Lagarde, elles vont un petit peu dans ce sens-là.
La situation sociale et la grève dans les transports du 5 décembre, vous en avez parlé un petit peu tous les deux, ça semble quand même beaucoup inquiéter à l'Élysée et dans l'exécutif en général, à Matignon, vous en parliez, Henri Vernet. Il y a des journées d'action syndicale et sociale très régulièrement. Pourquoi est-ce que celle-ci, elle fait particulièrement peur, Olivier Roucan?
Parce que, précisément, la question est de savoir si elle va additionner toutes les débuts de mouvements qui se signalent.
Hôpitaux, pompiers, policiers,
profs, étudiants. Et ça,
étudiants,
attention,
ça très dangereux.
S'interroger aussi sur les lycéens. Donc, il peut y avoir une sorte de, alors je dirais pas de convergence des luttes parce que c'est un vieux vocabulaire, mais dans tous les cas, de cristallisation de tous ces mouvements
d'agrégation
à partir du 5. Pas simplement le 5, à partir du 5. Et ça aussi, ça doit faire peur au Premier ministre. C'est-à-dire que la durée des mobilisations qui pourraient cristalliser est assez imprévisible. Et ça, je pense que c'est aussi le vrai problème.
À deux reprises, Henri Vernet, Olivier Roucan et moi-même avons prononcé le mot « peur » associé à l'exécutif. C'est vraiment ce qui ressort de tout ce qu'on peut lire. Ça suinte par tous les pores de l'exécutif dans les messages qui seront implicitement envoyés. C'est le bon mot, peur.
Bon,
parce que c'est pas un bon message quand on est dirigeant quand même.
Non, et justement, faut surtout pas le montrer. Mais là, le fait est, oui, qu'on sent une grande alors peur. Je sais pas si on employait ce mot, mais quand même une espèce de fébrilité. Ça, c'est très clair. Quand vous parlez au conseil ministériel, je vous ai dit, j'ai employé tout à l'heure le terme de tétanisé en parlant d'Edouard Philippe. Alors ça, c'est un terme qui nous a été rapporté par des conseils ministériels, donc des gens qui sont au cœur de ce pouvoir et qui vivent au quotidien avec ces dirigeants. Donc peur. En tout cas, il y a une espèce de paralysie possible. Il y a pour le moins une grande crainte. Écoutez, c'est simple, hein, la première année, rappelez-vous, il y avait une espèce de martingale, tout lui réussissait à ce président, il allait à marche forcée, il a réformé la SNCF, il a fait quand même le code du travail, etc. Alors que Mélenchon promettait 1 million de Français sur les Champs-Élysées, Philippe Martinez de la CGT promettait des grands blocages.
Voilà, c'était dans le sillage du sacre, donc là, le risque était faible sur le code du travail.
Non, mais rappelez-vous, dès le début, après l'élection, une ou deux réformes passent sans problème.
Vous
savez qu'aujourd'hui, ça, c'est un petit peu fini. C'était vrai quand vous gagniez largement les élections.
Ça a même été vrai pour François Hollande.
Alors, François Hollande n'a pas eu le droit. Non, François Hollande était pourri. Pour des raisons internationales.
Mais oui, justement, parce que 3% en parlait tout à l'heure.
Mais les premières lois passent sans problème.
Oui, mais enfin, François Hollande, il dit tout de suite qu'il va aller refaire le traité européen et il revient à la queue basse. Il n'a rien fait du tout. Il a renoncé d'emblée. Lâché par sa majorité d'emblée.
Est-ce que le message de la peur ou de la tétanisation, il est reçu évidemment 5 sur 5 à la fois par l'opinion, parce que ça se sent, et par les syndicats, Olivier Roucan, est-ce que ça peut les inciter à aller encore plus fort parce qu'ils peuvent peut-être obtenir plus que ce qu'ils espéraient au départ?
Non, mais eux ne sont pas particulièrement en forme non plus.
Oui, c'est vrai.
Nous sommes là dans des rapports de force où les syndicats partent quand même d'une posture assez défensive. Hein. Les syndicats, alors certes là, ils mobilisent, mais on a bien vu que notamment à la SNCF, les premiers départs sont des départs aléatoires. C'est pas organisé, cadré dès le départ par les syndicats.
Oui, la dernière grève était assez spontanée.
Ce genre de mobilisation. Et donc, le mouvement du droit au retrait. Je parle de ce qui s'est passé à la SNCF. Et donc, attention, les syndicats ne sont pas forcément en situation non plus d'imposer leur vue à ce pouvoir. On le voit d'ailleurs depuis 2 ans et demi.
Merci beaucoup Olivier Roucan. Merci à vous Henri Vernet d'avoir participé à cette émission qui se termine déjà. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Sigrid Azerwal à la coordination. Simon Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Appel sur l'actualité, prenez la parole.